Catherine.
Catherine le matin.
106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
À 9h24, la semaine dernière, il y a à peu près une semaine, le 1er juillet, je suis sur la route. Et même le matin, avant de prendre la route, je tombe sur l'article de l'actualité qui posait la question suivante. Peut-on sauver la planète un courriel de moins à la fois? Et là, je lis l'article le matin, je prends la route et j'entends notre prochaine invitée dans le bulletin de nouvelles sur nos ondes et sur les ondes de notre station sœur du 98.5. Là, tout ça pique ma curiosité. Et l'article de l'actualité se posait cette question-là. Est-ce qu'on peut sauver la planète en envoyant ne serait-ce qu'un courriel de moins par jour? C'est une étude qui a été publiée l'année dernière. La firme énergétique britannique OVO qui disait que si chacun des quelques 66,7 millions d'habitants du Royaume-Uni envoyait seulement un courriel de moins par jour, on retirait 16 tonnes de CO2 de l'atmosphère, donc l'équivalent de 22 vols aller-retour entre Londres et New York. Et là, je commençais à calculer le nombre de courriels que j'envoyais par jour. On s'est entendu qu'on en envoie et on en reçoit des courriels. C'est devenu notre mode de communication au travail, entre autres, puis même personnellement. Alors, je pense qu'il va tout remettre ça en perspective. Il est professeur à l'École polytechnique de Montréal, Michel Dagenais. Et là, bonjour, M. Dagenais.
Bonjour.
Alors, si j'envoie un courriel de moins aujourd'hui, je fais-tu une différence?
C'est très, très difficile de calculer exactement quel est l'impact d'un courriel parce que ça dépend énormément. Qu'est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on calcule le temps de la personne? Est-ce qu'on calcule l'énergie de l'appareil qu'on a utilisé pour envoyer le courriel? Après ça, okay. Bien, il y a évidemment toute la partie où ça part sur le réseau, ça va dans les serveurs et tout ça. Est-ce qu'on conserve le courriel indéfiniment? Puis là, il y a des copies de sécurité qui se font sans arrêt. Il y a tout ça qu'il faut regarder. Là. C'est très, très, très variable. Les gens font des grosses approximations quand ils font des calculs comme ceux-là.
OK. Alors, donc, si on le décortique, là, vous nous parliez, bon, ça dépend de l'appareil qu'on utilise. Alors, moi, là, devant moi, j'ai un portable, j'ai ma tablette, puis j'ai mon cellulaire. Lequel des trois appareils demande peut-être moins d'énergie que les autres?
Le cellulaire, normalement, consomme moins d'énergie. Ensuite, le laptop, la tablette. Puis après ça, okay. Bien, si on a une grosse tour, bien, ça consomme encore un peu plus. Mais c'est... Souvent, ce qu'on veut calculer, c'est tout le reste. Une fois que le courriel est envoyé, jusqu'à ce que ça se rende à destination. Mais c'est pas des très gros montants là, quand on regarde ça. C'est sûr, quand on multiplie par 60 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Mais chaque habitant du Royaume-Uni, là, où était l'étude, prend un verre de jus d'orange de moins le matin ou consomme deux tranches de bacon de moins, ça va être pas mal plus que 20 voyages aller-retour à New York. Là.
Oui, j'imagine. Monsieur Daget, dans l'article, entre autres, vous commentiez, vous disiez, c'est pratiquement impossible de calculer avec précision l'énergie consommée par l'envoi d'un simple courriel. Il y a ça. Ben, par contre, le courriel, oui. Monsieur Daget, puis je vous laisse aller par la suite, le courriel que j'envoie pour remercier quelqu'un, là, ah merci, OK, on se voit bientôt, versus un long paragraphe, est-ce que ça fait une différence?
Ça fait une petite différence, mais pas tant que ça, parce que le courriel est comme dans une enveloppe et puis tout ça, puis ça passe par les mêmes commutateurs et tout. Si on envoie un gros fichier, une vidéo, des choses comme ça, là, ça fait une différence énorme. Mais entre trois mots puis un paragraphe, la différence est négligeable.
OK. Alors, donc, ce qui veut dire que ces études-là, lorsqu'on avance des chiffres, on fait fausse route d'une certaine façon?
Ben c'est que c'est très, très variable. Je ne dis pas qu'on veut pas le mesurer, mais si on veut le mesurer, il faut savoir exactement dans quel contexte.
Okay.
Et puis, l'autre chose, c'est que on peut toujours réussir à gonfler les chiffres en calculant plein de choses, mais si on met ça en perspective, c'est un peu... La chose pour laquelle on a des mesures précises, c'est par exemple les recherches sur Google. Puis faire une recherche sur Google, c'est quand même chercher dans des index, des choses comme ça, c'est probablement quand même assez comparable à un courriel. Puis pour les recherches Google a publié les chiffres. On parle d'à peu près 500 recherches. Ça coûte à peu près un sou d'électricité.
OK. Donc, OK, oui, non complété.
Donc, ça met les choses un peu en perspective. On peut imaginer que le courriel, c'est à peu près la même chose. On va envoyer 500 courriels. Ça va probablement coûter à peu près un sou.
OK. Évidemment, d'un site Internet, d'un site web à l'autre, M. Dagenais, c'est variable. Là. Donc, ils ne sont pas tous aussi demandants les uns que les autres. Qu'est-ce qui est le plus demandant?
Il y a un certain nombre d'entreprises qui achètent des logiciels pour faire la vérification des courriels au niveau des virus. Ça, souvent, ces logiciels-là ne sont pas nécessairement très optimisés. Ils regardent plein de critères différents. Il y a des règles sont ajoutés par les gens localement. Des fois, ça peut être très gourmand pour ce que ça fait. Donc ça, c'est un exemple dépendant de l'entreprise qu'on utilise, qui héberge le courriel, là, puis le scan qu'ils font pour les virus. J'ai déjà vu des cas où il y avait une queue d'attente là, pour être capable de passer à travers tous les courriels pour voir les virus. Ça veut dire que le logiciel qui faisait ça était très gourmand. Alors, c'est un exemple de choses qui peut varier énormément d'une entreprise à l'autre.
OK, parce que vous disiez, encore une fois, dans l'article de l'actualité, il y a des sites web qui sont programmés de façon tellement épouvantable. Vous voulez dire quoi? Donnez-nous un exemple concret, M. Dagenais.
Il y a certains sites web, là on parle un peu d'autre chose, donc on fait l'utilisation du web, combien ça consomme, combien ça fait travailler notre ordinateur. Il y a certains sites web où les programmeurs essayent de suivre tout ce que la souris fait pour que, par exemple, s'ils ont l'impression qu'on déplace la souris pour aller changer de page, ils vont nous envoyer un message en disant « Voulez-vous vous inscrire à notre infolettre avant de quitter? » Alors, tout le temps où on déplace la souris, ils font des calculs pour toujours voir si on est en train de vouloir faire autre chose. Il y en a d'autres qui regardent quand on est en train de descendre notre souris ou de faire défiler la page un peu, là, ils ajoutent des informations. Il y a comme un programme qui roule en arrière-plan constamment. Il y a certains systèmes, si on a un laptop un peu plus vieux puis pour lequel on peut entendre le ventilateur, on entend que la machine chauffe, là, c'est que le processeur travaille très fort pour quelque chose qui ne devrait pas demander tant que ça. Mais ça dépend beaucoup, donc comment le programmeur a arrangé son site web.
OK, alors c'est pour ça que parfois, puis c'est pas juste une impression, c'est une réalité, qu'on se dit, voyons, il me semble que c'est long, là. Il me semble que mon ordi a de la misère à livrer la marchandise. Donc, ça peut être en lien avec ce que vous venez de nous expliquer, là.
Oui, tout à fait. Celui qui a fait ce site web-là, lui, il voulait juste rendre ça plus cute, il met une vidéo en arrière-plan de haute résolution, il fait plein de choses. Il essaye ça sur une machine très rapide qui fait juste ça, puis il dit, ah, ben ça marche bien. Et quand nous, on regarde ça, puis on a 15 pages ouvertes différentes, chaque page essaie de faire des choses sans avoir aucune considération pour l'efficacité, ça a un impact important. Puis ça, si un programmeur arrange son site web pour le rendre plus efficace, bien, chaque fois que quelqu'un se connecte sur son site web, ça va être moins exigeant, ça a bien plus d'impact que quand on se dit, bien, je vais envoyer un courriel de moins.
OK. Monsieur Dagenais, en terminant, on parle souvent de ce qu'on appelle le nuage, là, donc les méga-centres de données qui sont répartis à travers le monde. En pandémie, là, alors qu'on était beaucoup en télétravail, il y a une utilisation du web qui a été importante. Est-ce que ces méga-centres-là, jusqu'à quel point ils peuvent résister à la demande? Est-ce qu'on a remarqué justement qu'en pandémie, que la demande était, je ne sais pas, avait quadruplé? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça?
J'ai regardé ça un peu. Il y a des gens qui, au début, ont dit que ça tiendra pas et tout ça, mais la plupart des experts s'entendaient pour dire qu'on est déjà quand même assez bien organisé. Là, on sait, par exemple, je sais pas, moi, le vendredi soir, tout le monde écoute Netflix ou d'autres plateformes de vidéos en ligne. C'est excessivement demandant. Les infrastructures étaient prêtes pour ce genre de comportement-là. Là, ils ont été utilisés plus constamment tout au long de la semaine. Mais il y avait déjà une capacité excédentaire et puis ça a très, très bien tenu. Donc, moi, j'étais pas très inquiet. Mais oui, ça a été sollicité. Le taux d'utilisation était certainement plus fort que d'habitude.
OK, mais donc, jusqu'à quel point ça peut être surutilisé? J'imagine que tout ça a une capacité maximale. Est-ce que, tu sais, puis je me souviens, je fais un lien avec le bug de l'an 2000. On avait peur à ce moment-là que tout arrête de fonctionner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que ces méga-centres-là ne sont plus capables d'emmagasiner tout ce dont on a besoin?
Normalement, à partir du moment où ça a tenu dans les périodes de pointe, il n'y a pas raison pour que ça flanche. Donc, ça a tenu dans les départs, ça devrait continuer à fonctionner sans aucun problème. Ils ont quand même réagi à certains endroits. Ils se sont rendus compte que vraiment, en termes de bande passante, c'était extrêmement exigeant. Et ils ont fait des petits changements. Ils ont mis ça, par exemple, pour que par défaut, au lieu d'être full HD, ce soit une résolution un petit peu plus basse. On fait ça en Europe, on fait ça à différents endroits, juste pour libérer un peu de bande passante. Puis avec ça, ils ont compensé largement pour le surplus de demande. Il y a eu des réactions qui ont été faites par les compagnies quand même dans les débuts.
OK. Monsieur Dagenais, merci d'avoir été là, de nous avoir expliqué tout ça ce matin.
Ça fait plaisir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Michel Dagenais, professeur à l'École polytechnique de Montréal, donc qui jasait de tout ça. C'est un article qui est disponible là, dans l'actualité, si jamais ça vous intéresse. C'était fort intéressant sur la crise climatique au départ, l'envoi de courriels et la capacité aussi mondiale de ces grands centres de données.